France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, Mirapolis, un projet morne, ou presque. En 1987, un vaste parc d'attractions s'installe dans la ville nouvelle de Cergy-Pontoise. Son nom, Mirapolis. Ce Disneyland à la française affiche des ambitions aussi gargantuesques que le héros rabelaisien qui lui sert de totem, autrement dit, recevoir des millions de visiteurs et distancer les autres parcs à thème en devenir sur le territoire d'Astérix à Euro Disney. Rien que ça. Or, rien ne se passe comme prévu. Dès son ouverture, Mirapolis est saccagé par des forains qui voient en lui une concurrence déloyale. De catastrophe en catastrophe, le projet se transforme en gouffre financier. Résultat, Mirapolis doit fermer ses portes et le dynamitage en 95 de son bon gros géant, son effigie, vient signer la destruction définitive de ce miroir aux alouettes. Mirapolis est mort et avec lui, l'engouement débridé de la France des années 80 pour les parcs à thème à l'américaine. Notre invité aujourd'hui, David Frémery, président de l'association Les Amis de Mirapolis. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Margot Bouge, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Stéphane Cohn.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
Non, les petits trains du Far West ne sont plus réservés aux familles américaines qui fréquentent depuis 20 ans les parcs de Cincinnati ou de Disney World. Modernité oblige, la vieille Europe découvre le temps du loisir familial et son corollaire d'outre-Atlantique, le parc attractif, comme celui de Rust en forêt noire, proche de la frontière française et suisse. 1 million de visiteurs, dont 350 000 Lorrains, entre avril et octobre, empruntent ces petits trains qui courent sur les 26 hectares de verdure du château de Rust. C'est là que l'Europa Park s'est implanté en 1975, avec ses 40 attractions et son emblème, Euromaos, faux frère jumeau du célèbre Mickey.
Nous sommes en 1981 et la télé française découvre avec enthousiasme Europa Park en Allemagne. Voilà un endroit fantastique pour les petits et les grands. On s'étourdit à coups d'attractions, on assiste à des spectacles, on se délecte de sucreries, tout cela dans des décors, des paysages, des ambiances sonores qui reconstituent les différents pays du globe. Formule gagnante, le public afflue pour le prix d'une entrée unique. À cette occasion, les médias observent que plusieurs grands parcs thématiques, de Legoland au Danemark à Fantasialand près de Cologne, se sont implantés depuis des décennies en Europe du Nord. Autant de Disneyland à la sauce européenne, ludique, immersif, dépaysant, qui façonne des mondes imaginaires. Et la France dans tout ça? Eh bien jusqu'ici, elle a superbement ignoré les parcs à thème, du moins ceux de grande ampleur. Cela ne veut pas dire que les Français n'aiment pas les manèges. Mais ils ont pu compter sur une tradition foraine bien implantée, laissant s'installer profusion de chenilles ou trains fantômes sur les foires et places de village pour un temps limité. Mais une vague de parcs de loisirs aussi imposante que soudaine s'apprête à déferler sur l'Hexagone. Nul ne le sait encore. La France devra compter 100 parcs de loisirs dans 15 ans si elle veut conserver sa part de marché du tourisme international, proclame-t-on. Nous sommes en 1985 et nombreux sont ceux qui l'assurent, les parcs récréatifs sont l'avenir de la France. Ils sont des outils de décentralisation et des viviers d'emploi. Et puis les Français ont plus de temps libre, ils ont gagné la 5e semaine de congés payés et ils sont prêts à dépenser plus pour se divertir, selon l'INSEE. Alors, les projets se multiplient en France. Le parc Astérix, Big Bang Schtroumpf, le Futuroscope, Zygofolis et autres planètes magiques préparent leur ouverture avec l'appui des pouvoirs publics et des banques. Tout cela sous l'œil de la célèbre souris états-unienne qui, en 1985, annonce elle aussi son arrivée en France.
Mickey et tous ses amis seront en France dans 5 ans, avec ce superbe accord avec Walt Disney. La région Île-de-France et l'État, donc, vont implanter un parc de loisirs à Marne-la-Vallée, un véritable pactole pour grands et petits. Pour les grands, c'est 23 000 emplois, et pour les petits, c'est le paradis.
Ce signé, Disney débarquera en France à l'horizon 90. Mais d'ici là, les parcs français espèrent bien avoir fait leur trou, remporter leur part de marché, fidéliser leur clientèle. Et parmi eux, il y en a un qui entend bien se tailler la place du lion, le projet Mirapolis. Il naît de l'imagination d'une femme, Anne Fourcade. En 83, cette jeune architecte toulousaine décide de concevoir un parc à thème. Son concept ? Un parc d'attractions et paysagers s'articulant autour de la littérature, des légendes et de l'histoire française, l'équivalent du Magic Kingdom de Disneyland, ouvert en 1951 en Californie. Armée du carnet d'adresses de son père, constructeur d'hélicoptères, elle se met à la recherche d'investisseurs. En 1984, elle rencontre le financier Dave Farron. Ce milliardaire saoudien, désireux de diversifier ses investissements, est emballé. Il faut dire que les dessins féeriques et futuristes d'Anne Fourcade vendent du rêve, en particulier ce gigantesque Gargantua, héros rabelaisien vorace devant servir d'attraction phare au parc et de phare tout court dans le paysage. Pharaon acquiert un terrain de 90 hectares de rase campagne à Courdimanche, dans le périmètre de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise. Le lieu a du potentiel, proche de Paris, d'une future station de RER et en bordure d'autoroute. Bientôt, l'homme d'affaires n'est plus seul. Les actionnaires étrangers et français se greffent au capital de la société Paris Parc, tandis que des banques, dont le Crédit National, acceptent de prêter une somme colossale, 300 millions de francs. Il faut dire qu'on répète partout que le parc devrait attirer 2,5 millions de visiteurs au cours de ses 6 mois d'ouverture annuelle à la belle saison. En juillet 85, les engins de chantier sont sur le site. À vitesse grand V, ils terrassent les sols, creusent un lac artificiel, plantent 20 000 arbustes destinés à former la forêt de Brocéliande. Les attractions poussent comme des champignons, et il ne faut pas traîner. Mirapolis l'a juré, il ouvrira avant les autres, avant Ziggo Félix, avant Astérix, avant les Schtroumpfs, histoire de mobiliser l'attention, s'afficher en prescripteur de tendance et devenir la référence en France, mais aussi à l'international. Sur France Culture, Guy de Bois-Grolier, directeur du parc, déclare.
Ce qu'on a voulu, c'est créer avec des créateurs français, avec des entreprises françaises, avec des techniciens français, une entreprise culturelle qui soit à la hauteur des grandes entreprises culturelles internationales. Mais ça n'est pas pour faire du cocorico, c'est simplement pour montrer que c'est possible. Et ensuite, si nous voulons exporter notre savoir, ne le faisons pas venir du Japon ou des États-Unis.
Est-ce que vous envisagez de créer des Mirapolis en Europe ou à l'étranger ?
Tous les gens qui ont fait le pari de ce parc, tous les créateurs, tous les gens qui se sont lancés dans cette aventure, tous les fous furieux qui aujourd'hui travaillent avec nous, ne le font que pour en faire un autre.
Oui, Guy de Bois-Grolier voit loin, très loin, comme les porteurs du projet qui ont des rêves plein la tête. Il l'assure, dès l'année prochaine, la surface de Mirapolis qui s'étend sur 35 hectares sera doublée. Et Mickey n'a qu'à bien se tenir. Gargantua pourrait lui donner du fil à retordre. On n'a jamais vu une souris ludique manger un géant. C'est plutôt l'inverse qui risque de se passer, prédit Guy de Bois-Grolier. Mais avant cela, il faut ouvrir Mirapolis au public. Et le 21 mai 1987, c'est le grand jour. Les sourires sont sur toutes les lèvres en ce matin frileux. Certes, les attractions ne sont pas rodées, les décors ne sont pas achevés, la végétation est clairsemée et la gare devant desservir le parc n'est encore qu'un lointain projet. Mais Mirapolis ouvre avant ses concurrents, avant une vraie obsession. Et le Premier ministre Jacques Chirac, qui a inauguré le parc la veille, l'a trouvé fort bien conçu, pour reprendre ses mots. Autour du lac, les familles, amis et scolaires slalom entre les mascottes de Chaboté ou de Mousquetaire. Gargantua, lui, coupe le vin et, fourchette à la main, attire tous les regards. 35 mètres de hauteur, c'est la plus haute statue creuse du monde, après celle de la Liberté. Et elle se visite. Il suffit de grimper dans une nacelle pour voyager à l'intérieur des entrailles du géant. Depuis la collerette du Colosse, se déploie une vue plongeante sur les quartiers formant la cité de Mirapolis. Ici, la ville 10 offre une plongée terrifiante dans la légendaire cité bretonne noyée sous les eaux. Là, le Palais des Merveilles propose des spectacles truffés d'effets spéciaux sur les fables de La Fontaine. Et dans le jardin de la Belle Époque, on embarque sur un bateau pour aller à la rencontre de scènes animées évoquant les impressionnistes.
Dis-moi, c'était comment ?
Oh, c'était super !
Les adultes ne sont pas les derniers à s'enthousiasmer.
Je trouve que le Gargantua, c'est très chouette. La ville d'Ys aussi, c'est très bien. C'est très beau, c'est impressionnant, c'est formidable. Et je pense qu'il y a de tout pour les grands et pour les petits.
Mais à 15h, rien ne va plus. Parmi les badauds, se sont glissés une centaine d'hommes bien décidés à gâcher la fête. Et les voilà qui lacèrent les banquettes et les tapis roulants des attractions à coups de barre de fer. Et voilà qu'ils déversent sable et lessive dans les groupes électrogènes et dans les canalisations. Et leurs gestes sont précis, parce que ces hommes ne sont pas des casseurs lambda, mais des professionnels des manèges, autrement dit des forains. Ah, les forains. Comme les motards, ils sont souvent en colère, c'est une seconde nature. Voilà des mois qu'ils sont vent debout contre Mirapolis, et plus généralement, contre tous les parcs à thèmes qui se préparent en France, d'Astérix jusqu'à Disney. Marcel Campion, surnommé roi des forains, figure de proue du métier, a plusieurs fois dénoncé la concurrence, selon lui, déloyale de ces parcs récréatifs. Il faut dire que les forains ne bénéficient pas de la réduction du taux de TVA à 7%, mesure prise par l'État pour encourager l'implantation des grands parcs de loisirs sur le territoire. Et Marcel Campion déclare :
on voudrait faire disparaître les 50 000 forains. Et les 300 000 personnes qui travaillent directement pour eux, qu'on ne s'y prendrait pas autrement. Déjà, on nous vire des villes. Et ensuite, du point de vue prix, il nous est impossible de nous aligner.
2 ans plus tôt, les forains installaient leur manège de force dans le jardin des Tuileries pour protester contre leur exclusion du lieu. Eh bien aujourd'hui à Mirapolis, ils sont venus pour en découdre. Et lorsque les forces de l'ordre débarquent pour mettre fin au saccage des attractions, c'est la bagarre générale. Le bilan est sévère, 13 blessés, dont 2 traumatismes crâniens côté police. Mais les forains n'en restent pas là. Quelques jours plus tard, ils sont de retour à Mirapolis pour disperser des clous sur le parking et écument les supermarchés pour distribuer des invitations pour le parc. Sauf qu'elles sont fausses, ce qui sème la zizanie à la billetterie. Bon, les méthodes sont un peu tordues, mais elles portent leurs fruits. L'État accorde aux forains la même baisse de TVA qu'au parc de loisirs. Pendant ce temps, Mirapolis connaît une première année décidément bien noire. Aux heurts succède la pluie qui déferle tout l'été sur le pauvre Gargantua. 15 degrés en juillet, c'était le risque à Paris. Et ça décourage les visiteurs. À la fin de la saison, c'est la douche froide. Ils sont 600 000 seulement à avoir passé les tourniquets de Mirapolis. On est loin des 2,5 millions annoncés. Mais les observateurs estiment que l'inimité des forains et la météo délétère de l'été parisien ne sont pas les seuls responsables de ce faible engouement. Alors, qu'est-ce qui pêche ? Un auditeur de France Inter livre une première réponse.
Je suis quelque peu choqué des tarifs de Mirapolis. Bon, bien entendu, les attractions sont très intéressantes pour les enfants. Mon fils a beaucoup aimé. Mais je pense que pour une famille ayant un budget modeste et ayant environ 3 ou 4 enfants, 100 francs par adulte plus 70 francs par enfant, cela fait déjà quelque peu cher, même très cher à mon avis. Et de plus, les enfants à l'intérieur sont tentés par d'autres choses que les attractions. Tout ce qui peut leur être offert, comme l'achat de t-shirts, l'achat de friandises. Il est toujours difficile à des parents de refuser ces achats aux enfants.
Et puis des journées à un tarif excessif, conclut-il. Et pour un parc qui ne serait pas à la hauteur selon certains. D'abord, le cadre du Mirapolis. Il ne vend pas du rêve. L'architecte Anne Fourcade imaginait un lieu féerique où le visiteur aimerait se promener. Mais le parc ne comprend aucun relief, évidemment. Il a été grossièrement aplani lors de sa construction afin d'ouvrir au plus vite. Et puis la végétation est trop jeune. Des lignes à haute tension parasitent le paysage. C'est un no man's land balayé par le vent, résume l'humanité. Dans la presse, nombreux sont ceux qui qualifient Mirapolis de terrain vague. Et surdimensionné avec ça, car il faut parcourir de longues distances à pied pour aller d'une attraction à une autre. Bref, on est loin des univers denses, léchés, fourmillants de détails des parcs à thème étrangers. Oui, les attractions déçoivent. D'abord, elle tombe souvent en panne, faute de main-d'œuvre technique compétente. L'hydre à 10 têtes en animaronique qui garde la ville d'Ys a rapidement rendu l'âme. Et dans un sondage, la clientèle déplore le manque de manège à sensations fortes. Et même le nombre d'attractions tout court, puisqu'il n'y en a que 20 sur le site. 2 fois moins que chez Europa Park, qui s'étend lui sur 10 hectares de moins. Autre constat cruel, il ne serait que 5% des visiteurs séduits par cette thématique un peu fourre-tout qu'est la culture française. Si le géant de Rabelais impressionne par son aspect imposant, les gens l'admettent, ils ne savent pas souvent de qui il s'agit. Et ne parlons pas de Dame Tartine ou de Monsieur Gimblette, qui sont des références assez obscures. Donc, il faut se rendre à l'évidence. Gargantua, qui devait bouffer le monde, a eu les yeux plus grands que le ventre. Les actionnaires, qui accusent 20 millions de francs de déficit, font grise mine, mais réinjectent tout de même 100 millions de francs dans le parc. Car il faut redresser la barre et donner un souffle nouveau à Mirapolis.
J'ai connu et pratiqué montagne russe à gogo, overdose de barbe à papa, délice de pomme d'amour. En sortant du palais de glace, ébloui par le soleil, je passe devant notre fantôme. Oh mon Dieu, comme j'ai eu peur. Yeah, je sors du Luna Park sans un dollar, sans un regard. Oh Luna Park, j'ai tout aimé. Yeah, 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 yeah. Je monte dans ma voiture et j'allume la radio. Cette musique légère est-elle chantée par un ange? Elle me donne envie de danser. Yeah, yeah. Sur l'autoroute, je suis une fusée qui file vers l'océan. Le ciel immense est bariolé, mais la nuit est un incendie. Tu ne dors pas, c'est comme si tu sentais mon appel. Notre amour désire une aventure, viens me retrouver dans l'océan.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Mirapolis, la chute d'un géant.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
Printemps 1988. Après une première saison catastrophique, Mirapolis rouvre ses portes. Mais cette fois avec une nouvelle équipe à la barre. Exit Guy de Bois-Grelier et Anne Fourcade, c'est le Club Med. Jusque-là simple actionnaire, qui est choisi pour gérer le parc, avec pour mission de le rendre plus attractif. Si le Club Med n'a pas d'expérience dans le secteur, il s'y connaît en tourisme, animation et satisfaction client. Les gentils organisateurs l'affirment, ils vont transformer les visiteurs en Mirami, contraction de Mirapolis et de Ami. Pour cela, ils baissent les tarifs, égayent les murs à coups de peinture, ajoutent au vent et doublent le nombre de places assises dans les restaurants. Bah oui, l'expérience a montré qu'au hot dog avalé sur le pouce, les Français des années 80 préfèrent largement les self-service. Et puis, pour donner un coup de boost à la com, le Club Med envisage une figure populaire et langage. Le chanteur Carlos, prisé des plus jeunes, et surtout des moins jeunes, pour ses chemises fleuries, son visage débonnaire et ses interventions au Club Dorothée. Carlos l'assume, il est un bon vivant au solide appétit, donc le parfait ambassadeur du goinfre gargantois. et il entonne le nouvel hymne du parc.
Bienvenue à Mirapolis, entrez, entrez, petits et grands, laissez les mineries en police, venez chanter, c'est gérant quand on chante. Il n'y a qu'à Mirapolis, que le quotidien est merveilleux. Comme disait le bon Lapalisse, quand on sent bien, c'est déjà qu'on sent mieux. Tu verras devant toi le géant Gargantua, un appétit d'enfer.
Tous les dimanches, l'interprète de Big Bisou sillonne le parc dans une voiturette avec Fumigène, Sono et Girofard. Une parade à lui tout seul. Et quand il ne joue pas au Monsieur Loyal face aux visiteurs conquis, il fait la tournée des plateaux télé pour chanter les chansons de l'album qu'il consacre à Mirapolis. Michel Drucker, Jacques Martin, William Lémergie promettent ils iront eux-mêmes à Mirapolis. Et ils exhortent les téléspectateurs à faire de même. Devant les caméras, Carlos se met en scène en train d'essayer les nouvelles attractions. Et elles sont nombreuses. Des montgolfières, un cinéma 3D, un bateau pirate oscillant comme une pendule. Bon, on s'éloigne de la thématique initiale, mais ça dépayse. Et ça secoue. Car Mirapolis s'est enfin doté d'une montagne russe. Avec son pote Johnny Hallyday, reconverti pour l'occasion en expert de l'adrénaline, Carlos grimpe dans le Miralooping.
Pour Johnny, ce n'est pas un coup d'essai, le roller coaster, il connaît bien.
Je crois que celui-ci doit être plus impressionnant que celui de Magic Mountain parce qu'il y a plus de looping à la fin.
Dites-moi, vous, vous êtes toujours passionné de vitesse, moto, voiture, vous avez laissé tomber?
Ben non, mais la preuve, je suis dedans, alors.
Une attitude rock pour une machine roll.
Eh bien, c'est une grosse bestiole qui fait à peu près 30 mètres de haut, qui descend à 80 km/h avant de prendre le premier looping avec une force de 3G qui correspond un petit peu à ce qu'on ressent dans la patrouille de France, paraît-il, en petit vol supersonique. Elle pèse 900 tonnes, la structure, et c'est un petit joujou qui coûte entre 25 et 28 millions de francs.
La mort, je suis fait des kidneys. La mort, je suis pas décidé. Je peux encore essayer.
Attention à vos lunettes.
Johnny redescend du bolide, l'air contrarié. Il a cassé ses lunettes de soleil préférées en pleine voltige. C'est ballot, prix que ça coûte. Cela n'empêche pas Mirapolis de reprendre des couleurs. À la fin de la saison 88, on dénombre 1 million de visiteurs. Mieux que l'an passé donc. Mais pas assez pour atteindre le seuil de rentabilité, fixé à 1 200 000 entrées, et surtout pour couvrir le déficit de 85 millions de francs qui continue de se creuser. Mirapolis limite les dégâts, titre Le Figaro. Mais Mirapolis est devenu le symbole de l'échec des parcs à thème en France. Tout comme Zygofolis, parc ouvert à Nice un an plus tôt qui annonce déjà sa mise en liquidation. Dans les médias, on dénonce une boulimie de complexes touristiques qui ne correspond pas vraiment à la demande. Et les élus et commerçants de Cergy-Pontoise se plaignent que Mirapolis n'ait pas généré autant d'embauches et de touristes qu'escomptés. La désillusion est d'autant plus forte que l'enthousiasme pour les parcs a changé. Et chacun s'accorde à le dire, les études de marché étant basées sur des résultats américains, les prévisions de fréquentation ont été grandement surestimées, afin, entre autres, d'appâter investisseurs et banques. Les projections étaient donc faussées. Elles ont éludé le fait que le public américain ne s'est pas construit en un jour et que les Français n'ont pas encore l'habitude de passer des journées entières dans des parcs de loisirs en dépensant des fortunes en merchandising. Marc Tombé, nouveau directeur du Mirapolis, dénonce, je le cite, « un excès d'optimisme arrogant de la part des créateurs du Mirapolis qui avaient annoncé un succès foudroyant ». Et dans Les Échos, Philippe Chevillier écrit.
La rentabilité des parcs est une œuvre de longue haleine. Eu égard aux investissements de départ, aux hypothèses de fréquentation erronées, aux ratés propres à toute période de rodage et à la fidélisation progressive de la clientèle, il ne faut pas compter sur une rentabilité avant 3 ou 4 ans et sur des profits avant 10 ans.
Côté actionnaire, on rechigne à remettre la main au portefeuille pour renflouer un navire qu'on juge désormais difficilement sauvable. Trop grand, mal disposé, mal thématisé, mal scénarisé, bref, un mauvais produit pour citer Jacqueline Borel, qui a participé à la création du parc. Fin 88, la société Paris Parc décide de changer encore une fois de braquet, jetant définitivement par-dessus bord toute perspective de stratégie à long terme. pour continuer de proposer de nouveaux manèges, mais en limitant les coûts, Gate Pharaon intègre alors à la gestion des Mirapolis ceux-là même qui avaient saccagé le parc un an et demi plus tôt, les forains. Printemps 89, les ennemis d'hier arrivent à Mirapolis, cette fois avec le sourire et avec leurs propres attractions. Ils installent Grande Roue, Pieuvre, Tagada et Train Fantôme au pied de Gargantua. Autant de manèges standardisés que l'on retrouve aussi bien à la Foire du Trône que dans n'importe quel Luna Park. Pour grimper sur ces manèges itinérants, les visiteurs devront désormais payer un supplément, oui, en plus du ticket d'entrée à Mirapolis. C'est ainsi que le parc qu'Anne Fourcade avait conçu comme une création originale n'en finit pas de s'éloigner de son concept initial. Et la littérature française est désormais remise au placard. Au point qu'à l'été 89, un match de boxe est organisé à Mirapolis. Une manière de susciter un peu l'envie, mais c'est un flop.
Du jamais vu dans un championnat du monde de boxe, hier soir à Mirapolis, le français René Jacquot devait défendre son titre des Super Welter face à l'Ougandais John Mugabe. Devait, car de combat en fait, il n'y en a pratiquement pas eu. Deux minutes à peine après le premier coup de gong, Jacquot, en esquivant un crochet de son adversaire, a glissé sur le ring et s'est fait une entorse à la cheville. Résultat, il a dû abandonner son titre sur blessure.
Décidément, le sort s'acharne sur Mirapolis. À croire que quoi qu'il entreprenne, c'est la lose, voire la défaite par chaos. D'ailleurs, que faire face à une bande de Gaulois gavés de potions magiques? Car à 50 km de là, dans l'Oise, c'est l'ouverture du parc Astérix. Et le faux village armoricain a tout pour plaire, lui. Un thème fort, populaire, un cadre dense et enchanteur, des attractions qui décoiffent. Le public ne tarde pas à délaisser Gargantua au profit du petit guerrier à ailette. La fréquentation du Mirapolis s'effondre, les dettes s'accumulent et les créanciers, Crédit National en tête, frappent à la porte. Le 18 décembre 89, Mirapolis est mis en cessation de paiement et la société Paris Park dépose le bilan. Alors, les bailleurs de fonds livreront-ils le site de Mirapolis aux promoteurs immobiliers? C'est ce que redoute Marcel Campion qui n'entend pas se laisser faire. Le roi des forains l'assure, il ouvrira le parc quoi qu'il arrive au printemps 90. En avril de cette année-là, la justice lui donne raison. 10 familles de forains sont désignées par le tribunal de commerce pour reprendre la propriété du parc main dans la main avec Gate Pharaon. Mais le milliardaire saoudien qui a tant cru à Mirapolis ne tarde pas à jeter l'éponge. Il faut dire qu'il s'apprête à être inculpé pour son rôle dans la faillite de plusieurs banques et sera plus tard associé au financement d'Al-Qaïda. Fin novembre, ce sont les créanciers du parc qui récupèrent la propriété de Mirapolis. Tout au long de la saison 91, les forains conservent l'exploitation du parc et y installent des nouveautés. On peut désormais croiser des dinosaures à Mirapolis et se jeter au-dessus du lac, les pieds suspendus à un élastique. Mais depuis ses hauteurs, le parc affiche un visage désolé. Attractions, boutiques, restaurants ne sont pas entretenus et restent souvent fermés. À la fin de la saison, propriétaire et exploitant s'accordent, c'en est terminé de Mirapolis. Non, il n'y a plus d'espoir pour le rendre attractif à l'heure où Mickey, le concurrent ultime, le boss final de Marne-la-Vallée, s'apprête à entrer en scène. En décembre 91, l'information tombe comme un coup près.
Mirapolis, c'est fini. Le parc de loisirs proche de Cergy-Pontoise a fermé définitivement après 4 ans de fonctionnement chaotique. Les forains, les derniers repreneurs en date, n'ont pas voulu poursuivre cette coûteuse aventure à la veille de l'ouverture d'Euro Disney.
Mirapolis a fermé ses portes et il n'est pas le seul. Planète Magique, le parc océanique Cousteau, Big Bang Schtroumpf se sont également effondrés, entraînant avec eux les rêves d'un Eldorado français pour les parcs à thème. Le parc Astérix et le Futuroscope, eux, continuent à tirer leur épingle du jeu, mais au prix d'importantes difficultés et d'un incessant renouvellement. Euro Disney, lui, devenu Disneyland Paris, est la première destination touristique d'Europe. Mais que reste-t-il de Gargantua, le totem de Mirapolis, l'objet? Eh bien, pendant quelques années, il subsiste dans le paysage, regardant le parc se vider de ses attractions. Le dragon des sortilèges, le Mirapolis Express, les tacochapeaux et autres manèges plient bagages pour être revendus à des parcs allemands, belges, néerlandais. Et bientôt, Gargantua lui-même est vidé de ses entrailles. Et il se retrouve seul, dernier vestige de Mirapolis. Alors, que faire de lui ? La commune de Chinon envisage de l'acquérir pour fêter le 500e anniversaire de Rabelais. La tête du géant pourrait faire bonne figure au milieu d'un rond-point. Mais les coûts de démontage et de remontage sont élevés, donc cette deuxième solution est abandonnée. Et en 95, la nouvelle tombe, Gargantua, sera démolie. Tel en a décidé le Crédit National, propriétaire majoritaire du site, qui n'aurait qu'une crainte, que le géant soit classé monument historique. Et certains s'attristent.
C'est un peu un symbole qui sera détruit, quoi. Parce que Mirapolis, dans la ville nouvelle, on en a parlé beaucoup. Il a beaucoup été photographié, contemplé, donc ce sera un manque, quoi.
Le 31 août 1995, le géant est dynamité. Gargantua n'est plus. Et autour de son cadavre, la végétation reprend ses droits. Pendant des années, le site de Mirapolis sert de zone d'accueil pour des gens du voyage ou de terrain d'entraînement militaire. Autour du lac, désormais vide, circulent également des explorateurs de lieux abandonnés. Car ils sont nombreux à être fascinés par l'histoire de Mirapolis, colosse au pied d'argile. Sans avoir eu nécessairement besoin de le visiter, certains se souviennent d'avoir discerné Gargantua, apparition mi-fascinante, mi-terrifiante, dépassant au-dessus des arbres sur l'autoroute des vacances. Parmi les amis de Mirapolis, l'association qui continue de faire vivre la mémoire du lieu, chacun se demande ce que va devenir le site. En 2023, un permis de construire a été déposé. À la cité des rêves disparue devrait succéder un écoquartier.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, Mirapolis, notre invité David Frémery, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur et le président des Amis de Mirapolis, une association créée en 2013, et vous êtes dans les studios de France Bleu Nord à Lille, que nous remercions pour leur accueil. D'abord, pourquoi décide-t-on de fonder une association consacrée à un parc d'attractions disparu ? Est-ce que la nostalgie peut être un combat ?
Alors, c'est une question effectivement qui suscite beaucoup d'interrogations, mais en fait, il faut savoir qu'en France, on n'a pas beaucoup cette façon de se souvenir du patrimoine industriel. Donc, moi, j'ai essayé de chercher un peu des infos sur Mirapolis et j'en ai pas trouvé beaucoup. Donc, j'avais créé un petit groupe sur Facebook et je me suis dit qu'en fait, bon, j'allais partager un peu les infos que j'avais. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de curieux qui aimaient aussi le parc, beaucoup de personnes qui avaient également beaucoup de souvenirs à partager. Donc, à fort de tous ces éléments, ces photos, ces vidéos qu'on a pu collecter, on s'est dit, bah tiens, on va peut-être créer une, faire une exposition. Et au même moment, on avait un parc d'attractions, le parc Saint-Paul à Beauvais, qui nous proposait de nous vendre des éléments du décor qu'ils avaient racheté à Mirapolis. Donc, on s'est dit, bah autant profiter de l'exposition pour faire une association. Et puis, avec cette association, on est tous réunis, on pourra collecter des fonds et racheter les décors. Donc, on a pu collecter des fonds qui nous ont pas forcément servi à racheter des décors puisque le parc Saint-Paul finalement nous les a offerts. Et on a pu aussi, grâce à l'asso, se rapprocher d'autres organismes qui nous ont donné des infos, qui nous ont donné des photos, des vidéos.
Mais cette expo, vous l'avez faite ou pas?
Ah oui, on en a déjà fait deux. Ouais, et là, on travaille sur une troisième. J'avais encore Anne Fourcade, l'architecte du parc, au téléphone samedi, qui doit être en train de nous écouter en plus. Du coup, je la salue.
Nous aussi. Bonjour.
Et du coup, on travaille là-dessus parce qu'elle a énormément de documents à nous fournir. Donc, on voudrait refaire une troisième exposition, certainement en 2025, puisqu'en plus, ce sera encore l'anniversaire du début des travaux de Mirapolis.
Mais vous n'avez pas l'intention de le faire revivre, si ? Est-ce que c'est votre désir caché ?
Non, franchement, j'ai assez les pieds sur terre. Je laisserai ça à d'autres. Non, moi, je veux vraiment entretenir la mémoire du parc. Faire un parc aujourd'hui, ça demande beaucoup de choses, beaucoup d'implications, beaucoup d'investissements. Et j'ai pas encore les reins assez solides pour le faire.
Donc voilà, donc c'est une démarche patrimoniale.
C'est okay. ça.
Vous avez visité Mirapolis quand vous étiez plus jeune? Ou pas.
C'est ça. Ah, oui, moi j'y suis allé. Oui. Ah bah, c'était une journée magique parce que je me souviens que c'était un matin assez tôt et mes parents m'ont réveillé en me disant allez viens dépêche-toi on se lève on part à Mirapolis. Alors, j'étais un peu rêveur à l'époque parce qu'on voyait Mirapolis que dans la presse. J'avais vu ce Gargantua devant un lac et je me suis dit waouh ouais, ça va être génial à voir.
Très beau. Donc, d'ailleurs je vous coupe mais très beau. J'invite les auditrices et les auditeurs à aller voir la photo sur internet. C'était vraiment très beau, cette statue. Hein. Gargantua assis, c'était ouais. Et puis grand en plus.
Il avait un beau visage magnifique, très souriant. Alors, il y en a qui me disent des fois, ah, ça me faisait peur. Mais enfin non, il était souriant. Il avait envie de manger et de boire. Voilà, c'était un bon vivant. Et donc, en arrivant justement, c'est lui qu'on voyait. À peine j'étais sorti de l'autoroute que je voyais son sourire au loin. On voyait les attractions se rapprocher. Il y avait c'était le pays des géants. Donc même sur le parking, il y avait une énorme boîte de Nesquik avec gros cuic pour ceux qui ont connu à l'époque, qui sortait. Il y avait une bouteille de Coca-Cola géante qui devait mesurer 4-5 mètres de haut. Et à l'intérieur du parc, c'était vraiment quelque chose de différent. Quand vous allez à Disney, par exemple, vous avez les façades. On ne voit que les façades. Qu'à Mirapolis, on pouvait vraiment faire le tour de chaque bâtiment. On pouvait aller derrière Gargantua, le théâtre, on voyait pas les coulisses. C'était un parc vraiment pensé différemment, une espèce de jardin dans lequel on avait mis des attractions. Et en plus, il y avait beaucoup de bancs. Donc, moi, je trouvais ça génial que les parents qui voulaient pas faire les attractions pouvaient voir les enfants dans les petits bateaux, dans les petites voitures, en train de passer.
Bien, et puis vous êtes retourné, j'imagine, à Mirapolis. Vous avez vu une évolution qui vous aurait inquiété, par exemple, qui pouvait annoncer la fin prochaine ou à moyen terme de ce parc?
À l'époque, moi, j'étais encore lycéen, donc c'est un copain, un chauffeur d'autocar, qui m'a dit « Ah, bah, Mirapolis, tu savais pas, c'est fini. » Ah bah mince. Donc j'étais retourné un jour en RER, jusque, à l'époque, c'était Sergi Saint-Christophe, donc il a fallu marcher jusque Mirapolis, parce que le RER n'arrivait pas encore, même après la fermeture, n'arrivait pas tout de suite jusqu'au parc. Et j'avais trouvé, effectivement, que le parc était, c'était défraîchi, c'était plus entretenu, c'était fermé, donc c'était bien triste. Ensuite, on y est retourné parce que, on s'est lié d'amitié avec le gardien du parc. Donc, on allait régulièrement le voir, on allait dans le parc. Mais c'est vrai que la végétation a repris le dessus. Mais tous les ans, on était impressionnés de voir à quelle vitesse les herbes, les plantes, les arbres reprenaient le dessus et envahissaient totalement les allées, les lacs. Enfin, on retrouvait vraiment plus rien.
France Inter. Sensible.
David Frébéry, je rappelle que vous êtes le fondateur et le président des Amis de Mirapolis, une association créée en 2013. Nous avons évoqué rapidement, pendant le récit, l'échec de deux parcs contemporains de Mirapolis, Ziegfelis et Big Bang Schtroumpf. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors je pense que Big Bang Schtroumpf, il était un peu trop près justement d'Europa Park dont on a parlé. Toutes les personnes qui habitaient en Lorraine avaient l'habitude d'aller à Europa Park puisque il y avait rien d'autre après dans les environs. Je pense qu'il a souffert justement de cette envie des gens d'aller trop à Europa Park en Allemagne. Il n'y avait pas beaucoup d'attractions justement à Big Bang Schtroumpf comparé aux géants allemands. Et puis Ziegfelis, le souci c'est qu'ils ont fait la moitié du parc en version aquatique avec des toboggans, mais ils étaient juste à Nice, là, à côté de la mer. Il faut savoir que dans les années 80, les gens allaient plus à la piscine pour nager et pour se baigner. On n'avait pas encore cette culture des toboggans et je pense que c'est ça qui a coûté malheureusement très cher à Ziegfelis.
Et qu'est-ce qui a coûté cher à Mirapolis, à votre avis? On l'a dit dans le récit, mais il y a peut-être une raison plus prégnante, une première raison selon vous peut-être.
Non, le problème de Mirapolis, c'est que il y avait trop de dettes dès le départ en fait. Ils ont emprunté beaucoup trop aux banques. Ils ont voulu faire très vite, pense. Ouais, ils ont voulu être les premiers. Et en voulant aller trop vite, ils ont été justement trop vite. Ils ont emprunté aux banques à des taux de 13%. Donc pour rembourser, c'était quelque chose de pas possible dès la première année. Enfin, ils savaient qu'ils allaient aller dans le mur. Je pense que c'est justement ce qui a coûté malheureusement la vie à Mirapolis, de vouloir aller trop vite. Il aurait peut-être fallu laisser les autres, tant pis, laisser les autres se casser un peu les dents là-dessus, et puis faire des investissements en fonds propres plus différents. Je sais qu'Astérix, justement, en voyant l'échec de Mirapolis, s'est dit « Ouh là là, on va tout de suite remettre de l'argent en fonds propres pour ouvrir Astérix en 89 ».
Est-ce que vous avez aussi le sentiment qu'il n'y a pas eu beaucoup d'efforts pour sauver Mirapolis ?
Bah, c'est justement là... Des fois, je me dis, ouais, peut-être ils n'ont pas fait beaucoup d'efforts, mais après, quand je vois les autres parcs qui ont tenu le coup, bon, je sais qu'Astérix n'a eu, par exemple, rien du tout. Ils ont dû payer eux-mêmes leur pont d'autoroute, leur bretelle d'autoroute, et ils continuent à payer le péage pour leurs clients. Je sais pas si Mirapolis, est-ce qu'il n'y aurait pas eu l'effet, justement, Disney, où le gouvernement a dit, bah, il y a Disney qui arrive, on va pas leur faire de concurrent, on va laisser mourir Mirapolis, tant pis, et puis advienne que pourra, quoi.
Alors, parlons des forains.
Oui.
Saccageurs du parc à son ouverture, ils en sont devenus 3 ans plus tard les exploitants. Alors, sans vouloir faire de complotisme, hein, bien sûr, on peut peut-être se poser la question, ont-ils amené le parc à la ruine ou ont-ils vraiment essayé de faire fonctionner ?
Non, alors j'ai eu l'occasion justement de discuter avec des forains, dont le roi des forains. Et non, effectivement, ils ont cherché à sauver Mirapolis. Ils ont énormément investi, ils ont ramené pas mal d'attractions. Ils ont essayé de créer des spectacles, des animations différentes. Non, je pense pas qu'ils ont cherché à couler Mirapolis. D'après ce que j'avais bien compris, c'est plutôt le Crédit National à l'époque qui leur a dit « Non, bon, on va arrêter là, merci d'être venu, au revoir ».
Alors, on a évoqué le fait que certaines attractions des Mirapolis ont été revendues à des parcs étrangers. Savez-vous si elles sont toujours en activité aujourd'hui ?
Alors, la majeure partie, quasiment toute, était repartie à Berlin, à Spree Park. Mais malheureusement, le parc, lui, a fermé, je crois que c'est en 2002. Donc, elles n'ont pas eu le temps de vivre énormément là-bas. Elles sont toujours à l'abandon, plus ou moins. Il y en a quelques-unes qui ont été démontées. D'ailleurs, il y a une autre association qui entretenait plus ou moins les attractions à Spree Park. Ils avaient fait retourner le train panoramique qui faisait le tour du parc, les tasses à thé de Nesquik. Nous, on avait contacté justement la mairie de Berlin pour essayer de récupérer des attractions, mais ils nous les vendaient en lot complet. C'est-à-dire que moi, je voulais juste une bûche, un taco chapeau, un truc comme ça. Et eux, non, il fallait racheter les 12 bûches, les 15 taco chapeaux. Donc, c'était pas pertinent pour nous. Par contre, il reste un grand 8, le fameux Mira Looping dans lequel Johnny a cassé ses lunettes. Lui, il est toujours à Vias Plage. Il s'appelle l'Euroloop. Je sais plus le nom du parc. C'était Europark, mais il a changé de nom il n'y a pas longtemps. Et lui, il est toujours en activité dans le sud de la France.
C'est quoi le taco chapeau déjà ?
Taco chapeau, c'était un peu des petites voitures qu'on pouvait conduire, vous voyez un peu les tacos. Sauf que là, ils avaient des formes de tacos avec des moustaches, des lunettes et tous un chapeau différent. Ils avaient des lunettes différentes. Donc, il n'y avait pas de véhicule pareil. Et en plus, on pouvait les faire bouger un peu sur la droite, un peu sur la gauche. Les enfants pouvaient vraiment conduire la voiture et la faire aller un peu sur la droite et à la gauche du parcours.
Vous êtes souvent rendu sur le site de l'ex-Mirapolis. Vous avez même organisé, je crois, des sortes de visites guidées pour les passionnés. Vous pouvez nous dire un peu ce qui est devenu cet espace depuis 1995, comment il a évolué ?
Oui, alors on avait avec l'ancien propriétaire un accord tacite. Enfin, voilà, on avait l'accord pour aller aider un peu le gardien du parc. Donc régulièrement, on allait lui rendre visite. On avait rénové un peu son logement. On allait réparer un peu les grillages que les gens allaient couper pour déposer des dépôts sauvages dans le parc. Et puis, on a pu organiser des visites avec les membres de l'association. On a même une fois, à la grande surprise de tout le monde, j'avais pas fait fuiter l'info. On avait Anne Fourcade qui était venue avec moi et qui nous avait vraiment fait la visite complète du parc. Elle nous avait expliqué les petites collines avec les rochers au niveau des bûches pour évoquer les Vosges, tous ces parcours scéniques qu'elle avait imaginés dans les attractions. C'était vraiment hyper intéressant parce que on avait vraiment la vie de la créatrice à travers le parc. Ensuite, par contre, le parc s'est vraiment détérioré puisque il y avait plus du tout d'entretien. Le parc, les arbres poussaient par-ci par-là. Il y a eu un projet, je sais plus, je crois que c'était en 2000. 2016-2017, où ils ont coupé un peu les arbres pour essayer de présenter un projet de parc nature, un peu Center Parks. Mais bon, le projet n'a même pas vu le jour, ils sont même pas allés au bout du projet, donc...
Alors, on annonce aujourd'hui la construction d'un écoquartier sur l'ex-site de Mirapolis. Un permis de construire a été déposé. Vous savez où on en est ? Est-ce que les travaux ont débuté ?
Alors, les travaux devraient débuter en juin 2025, si je ne me trompe pas. C'est franchement le projet le plus réaliste que j'ai vu depuis la fermeture du parc, parce que il y avait quand même un projet de piste de ski, un projet de stade, le Stade de France devait s'y installer. Mais là, franchement, c'est quelque chose qui est assez réaliste, parce que c'est un éco-quartier, il y aura des logements étudiants, des petits logements de vacances. On est vraiment loin d'autres projets que j'ai pu voir, où ils voulaient installer 700 chalets, pour faire une espèce de village nature, quelque chose qui fait un...
On est dans le réaliste, quoi.
Oui, non, voilà. Okay. Et en plus, ils n'investissent pas le parc en entier, quoi. Ils investissent juste au début une partie, la moitié du parc, et puis ils investiront par la suite le reste, je pense.
Très bien. Merci infiniment, David Frébéry.
Merci à vous. Au revoir.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Mirapolis, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Titouan Labarre.